Votre règlement a été accepté. Le vélo en borne 5 est libéré. Merci.
Allez, en route.
Attendez, c'est mon vélo.
Je viens de le payer et je suis assis dessus. Donc non, c'est mon vélo.
Non, mais je viens de le commander sur mon téléphone. Je l'ai payé, je l'ai validé.
Bon, on peut faire ça sur un téléphone?
Bah ouais, on peut. Du coup, je viens de le faire. File-moi ce vélo.
Premièrement, non. Deuxièmement, baisse d'un ton ou je t'imprime la semelle de mes rangers sur la tronche.
Non mais putain, j'y crois pas. Le mec me pique mon vélo et après ça il me menace. Vous avez vu?
Mais qu'est-ce qui se passe ici?
Ça, c'était pas une menace.
Lâche-moi
mon vélo.
C'est ridicule.
Ça va finir comme mon dernier raid sur les triades à Rwanapura. Écoute, ça va être très simple. Je descends du vélo, je plie le cadre et je t'en fais un collier.
Oh là là, cela a escaladé très rapidement. Ilicus, rien que ce mois-ci, j'ai été te chercher au poste à 3 reprises. Je te préviens, la prochaine fois, tu rentreras à pied.
Dis à ce connard de me laisser mon vélo et il y aura pas de problème.
Dites, madame Sourette, ce gars-là, il est pas bien, il faut l'enfermer. C'est pas votre mec, quand même.
Oui, on peut dire ça. Bon, écoutez, je vous prête mon vélo, il y a l'adresse dessus, vous l'abîmez pas et vous me le ramenez, ça vous va?
Ah bah si gentiment proposé, j'aurais tort de refuser. Merci la soubrette, salut le tocard.
Mais pourquoi t'as filé ton vélo à un abruti pareil? Je te garantis que tu le reverras jamais.
Ouais bah de toute façon j'arrivais pas à rouler avec, ça me saoule. T'as déjà essayé toi, de pédaler avec des talons?
Allez, grimpe sur le guidon, je nous ramène à la maison.
Le samouraï et la soubrette. Épisode 11. Silent Voice.
Bienvenue dans ce 11e épisode du podcast Le Samouraï et la Soubrette, le podcast où deux colocs vous parlent d'animation japonaise et plus si affinité. Aujourd'hui au menu, il s'agira de Silent Voice, au nom japonais de Koe no Katachi, qui est un long métrage sorti en 2018 en France et en 2016 au Japon. Long métrage réalisé par Naoko Yamada, que l'on doit au studio Kyoto Animation pour changer, et qui est une adaptation du manga d'origine A Silent Voice par Yoshitoki Ohima. Jean, est-ce que tu peux nous en présenter le pitch?
Pitch, mon pitch, quant à... Aïe!
J'avais dit non.
T'avais aussi dit non pour les lézards et pour les fesses de dragon qui dansent.
Tu remarqueras que c'est mon mot préféré quand t'as des idées de ce genre.
Quel rabat-joie celui-là. Bon, alors, Koe no Katachi nous raconte l'histoire d'un garçon, Shoya, dont la vie a basculé suite à son harcèlement sur une camarade d'école primaire qui était sourde. Cherchant à se reconstruire une fois au lycée, il va retourner à sa rencontre pour prendre un nouveau départ.
Eh bien, merci Jean pour ce pitch. Dis-moi, comment tu as découvert cette œuvre Koe no Katachi, comme tu le dis, ou comme les vrais gens le disent, A Silent Voice?
Tu veux dire Shape of Voice, c'est ça?
C'est vrai qu'il y a encore ce débat-là, ouais.
Alors, Koe no Katachi, j'ai eu vent de son existence via les réseaux sociaux. Il s'agissait à ce moment-là d'un financement participatif mis en place pour donner un coup de pouce au film en vue d'une diffusion ciné en France. J'avais donc participé d'un montant qui était assez conséquent, qui me donnait accès en contrepartie au combo Blu-ray DVD, à l'édition physique donc du film, une sorte de précommande au final. Grâce au bon résultat de ce financement participatif qui avait dépassé ses paliers, j'avais pu aller voir l'œuvre au cinéma à Valence avec mon camarade Loïc, dont la voix vous est déjà familière puisqu'il s'agit de Monsieur Wolf. Et donc toi, dans quel contexte tu as découvert cette œuvre?
Eh bien, moi, je l'ai découvert via le manga. Comme tu le sais peut-être, via mes activités professionnelles, je suis amené à pas mal côtoyer des personnes en situation de handicap. Du coup, c'était un des rares mangas qui explorait ce thème-là. Donc, c'est pour ça que je l'ai lu quasiment à sa parution. J'ai suivi la parution de chaque tome en France. Et avec vraiment pas mal d'assiduité, pardon, oh là là, il y a des mots difficiles à dire des fois, et j'ai vraiment beaucoup apprécié le manga, tellement que j'ai eu beaucoup de mal finalement à me mettre au film. Le film, je l'ai vu assez tardivement au final, C'est un film que j'ai maté à reculons, mais que j'ai finalement beaucoup apprécié. Le truc, c'est que le découpage, il est différent dans le manga et dans le film. La partie primaire, elle est très dense. Elle tient sur un tome du manga, sachant que le manga est en 7 tomes. Alors que ici, en fait, le film, on voit qu'il a décidé de faire des coupes sur la deuxième partie. Je détaillerai pas sur quelle partie en particulier, mais on va dire qu'il y a des impacts très assez différents de certaines scènes. Et même si c'est un point de vue légèrement différent, il raconte exactement la même histoire.
Ok. Du coup, on va commencer par la partie visuelle pour ce qui est des aspects techniques. Visuellement, ce film est quand même impeccable, il faut le dire. On a des traits qui sont fins et qui sont subtils, des couleurs et des effets de lumière qui sont très soignés, donc très aboutis à ce niveau-là. On place la barre assez haut à ce niveau. Également, il y a beaucoup de symbolique à l'image. Je vais donner un exemple hors du contexte hein, pour ne rien vous révéler sur l'intrigue, mais par exemple un vol de papillon, bref, à l'image qui va accompagner quelque chose d'éphémère dans l'histoire.
Oui, il y a aussi une représentation des fougous. Il y a le personnage de Choco qui nourrit en fait des poissons dans une rivière assez régulièrement dans le film, et j'ai l'impression que la manière dont c'est montré fait partie d'un symbolisme complet. Bon, après, je pense qu'il faudrait voir un peu plus avec des gens qui ont plus de culture japonaise que moi. Parce que moi, j'ai tellement de culture japonaise que je lis que les trucs en anglais, parce qu'il ne faut pas déconner. Sur la partie visuelle, pour moi, Silent Voice a été la découverte de la réalisatrice Naoko Yamada et de son style vraiment très particulier, hérité de l'école Kyoani. Il y a une grande finesse dans la mise en scène. On a un cadre très intimiste, vraiment centré sur les personnages, un vrai sens du rythme et des variations musicales et de la gestuelle aussi des personnages par rapport à cette musique. Globalement, un humour assez fin et bienveillant comme ce qu'on peut observer dans d'autres œuvres de Kyoto Animation, et surtout une vraie science de la mise en scène de l'émotion, quoi. On voit aussi souvent un réglage de mise au point avec un premier plan qui passe en flou par rapport à l'arrière-plan.
Ah, ils font moumuse avec le bokeh.
C'est ça, sauf que normalement c'est des dessins, quoi. Donc c'est pas un vrai plan. Donc c'est assez intéressant, je trouve, l'effet de flou qu'ils mettent dessus, surtout que ça traduit en fait un trouble dans l'esprit de l'observateur. C'est assez intéressant. On a pas mal de plans qui sont centrés sur les pieds, sur le rythme des pas. C'est une constante chez Yamada, parce qu'on je l'ai aussi observé dans d'autres films, que ce soit dans Keon ou dans Lisez l'oiseau bleu. Vu la thématique du film, pas mal de plans qui sont centrés sur les mains, vu qu'il y a pas mal de gestuels pour la langue des signes.
Effectivement, oui. On va enchaîner avec la partie audio, du coup. C'est amusant de voir que, tout comme pour Your Name, l'ouverture du film, alors pas exactement l'ouverture, mais assez rapidement, mène à une chanson. C'est quelque chose que l'on retrouve plus généralement, cet aspect clip, sur les séries animées et moins souvent sur les longs métrages. Et je me souviens donc que tu en avais fait mention dans notre épisode sur Your Name, épisode 4. Et donc c'est quelque chose qu'on a eu à nouveau là sur Koe no Katachi. Je crois que tu as un peu plus de choses à nous dire là sur la musique qui a été choisie.
Ouais, la scène introductive, elle est au son du mythique morceau My Generation de The Who's, qui est un grand classique du rock de la fin des années 60, presque en gros l'esprit punk avant le punk, vu que le punk est arrivé plutôt à la fin des années 70. Là on suit un peu les conneries de Shoya, qui marquent bien son espièglerie et sa globale insouciance, qui ne laisse pour le coup vraiment pas transparaître le ton du film suivant, mais je trouve que c'est un excellent clip, et ça montre en peu de temps, de très bonne manière, dans quel esprit était Shoya quand il était en primaire. Pour le reste des musiques, on est surtout sur des musiques piano assez minimalistes, hein, avec des fois des sifflements discrets. avec des notes qui sont appuyées par de fines percussions, comme par exemple un vibraphone. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un vibraphone, c'est comme les xylophones que vous aviez en étant enfant, donc cet instrument avec des lamelles de métal sur lesquelles vous tapiez avec une petite baguette. Sauf que là, le vibraphone, c'est la version XXL qui a la taille d'un bureau, quoi. Et c'est un son très particulier qui c'est une des percussions qui donne un son vraiment très rond et très doux, quoi. Personnellement, je suis pas très fan du générique de fin. J'imagine que tu vas plus parler de la musique de la dernière scène, mais le générique de fin, je trouve qu'il est un peu raté parce qu'il nous sort vraiment brutalement de la bulle dans laquelle on était dans le film.
Ouais. Oui, effectivement, donc les musiques font la part belle au piano. Ce qui explique très certainement qu'on est sur du tarot-core à ce niveau. La globalité de la bande originale est à la fois belle et discrète, j'ai trouvé, au risque de se montrer parfois un petit peu oubliable. Mais cela ne saurait en aucun cas s'appliquer à la piste phare de l'OST qui s'appelle Lit, qui accompagne de façon magistrale la scène finale, donc ce à quoi tu faisais référence. Donc effectivement, moi, c'est le souvenir que j'ai en fait du film et notamment du visionnage au cinéma, parce que au cinéma ça rendait particulièrement bien. Et le générique de fin m'a pas spécialement plu ni déplu, en fait il m'a pas tellement pas marqué que je l'ai oublié. Peut-être justement parce que, comme tu le dis, il était pas du tout dans le même registre.
Mmh. Oui, d'ailleurs, ouais. Non, allez, j'en parle pas parce qu'un jour on fera une émission sur Naoko Yamada et toute son œuvre, parce que j'allais comparer à un autre film qu'elle a fait. Mais peut-être qu'on en parlera dans une autre émission de façon...
Attends, mais tu m'as toujours refusé une émission sur Trigger.
Alors, je l'ai pas refusé, c'est juste que tu vas pas commencer à parler de ça devant les gens. C'est privé, on a dit.
À la maison. À la maison. On en reparlera à la maison.
Ça marche. On va plutôt aborder les thématiques du film, ouais. Hein, parce que maintenant qu'on a bien rigolé,
parle-nous de narration un petit peu là.
Oui, donc le film il choisit de raconter avant tout l'histoire de Shoya Ishida, hein, là où, comme je disais plus tôt, le manga s'attarde plus sur les destins croisés de Shoko Ishimiya et de Shoya. Et donc on suit vraiment sa quête de rédemption. Sur sa quête de rédemption, déjà elle vient d'un premier point important du film qui est le harcèlement scolaire. Plutôt que de simplement dénoncer le harcèlement scolaire, le film montre très bien les petits riens qui virent à la situation de harcèlement tel qu'on l'observe dans le film. On a déjà l'effet d'entraînement de groupe, parce que le harcèlement scolaire, c'est pas le fait de masse informe, mais de personnes qui s'auto-émulent. Il n'y a pas de globale méchanceté. Il y a un groupe qui veut s'amuser et c'est à celui qui ira le plus loin, quoi. Il y a aussi une forme bizarrement d'inclusion. Je crois que tu vas en parler un peu après. En fait, c'est celui qui ira le plus loin se sentira le plus intégré dans le groupe. Et je pense que c'est un âge, surtout la partie scolaire, où être intégré dans le groupe, c'est absolument essentiel.
Ouais,
quoi.
C'est vital, ouais. En fait, je pense que ce que tu veux exprimer, c'est qu'il y a un espèce d'aspect extrêmement vicieux où la personne qui ira le plus loin, qui sera la plus inventive, hein, excusez-moi du coup pour le qualificatif, hein, c'est juste pour décrire la chose, celui qui sera le plus inventif dans son harcèlement auprès de cette personne va devenir le plus populaire.
C'est ça. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, ça montre aussi l'impunité qui va avec. Parce que justement... déjà tu te sens permis de faire ce genre de,
ouais,
de faire ce
validé,
genre de choses
validé par les autres
validé par
socialement
les autres,
ouais.
Validé par le groupe, et ce qui est montré encore plus dans le film, c'est validé par l'inaction des adultes responsables.
Oui, parce qu'ils n'ont pas toujours le pouvoir ou la volonté d'agir.
C'est ça. Et quand ils ont la volonté, on voit qu'il y a un système de bouc émissaire qui se met rapidement en place.
Ouais.
Et c'est là, en fait, où on voit les réflexes d'omerta et de discrimination. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé le bouc émissaire, tout le monde se désolidarise et veut sauver sa peau, soyons clairs.
Oui.
Quitte à ce que la personne désignée devienne la nouvelle tête de Turc.
Ouais. Donc du coup, niveau intégration, donc t'en parlais, effectivement, c'est toute notre vie, on cherche quand même un petit peu à s'intégrer socialement ou professionnellement. Et donc, quand on est gamin, bah, que ce soit social ou professionnel, bah, c'est l'école, en fait. Hein, tout tourne autour du même lieu. Et niveau intégration, en fait, presque aucune chance n'est laissée à Nishimi Yashoko, qu'on voit donc arriver, dans rejoindre la classe en cours de route. Rejoindre une classe qui est déjà soudée, c'est déjà un challenge en soi. Si vous avez vécu des déménagements dans votre vie durant votre scolarité en enfance, vous verrez très bien de quoi je veux parler. Et donc en plus, Shoko étant victime de ce handicap, de cette différence, on lui laisse vraiment, j'allais dire assez peu de chance. Non, en fait, on lui laisse aucune chance. La moindre différence fait peur déjà en temps normal et peut être sujette à la discrimination. Hein. Il n'y a pas besoin d'un handicap pour ça. Hein. Ça peut être l'apparence, la masse corporelle de la personne, une religion ou un style vestimentaire particulier.
Non, mais soyons clairs, toute différence visible est une arme. Une arme contre soi, c'est ça qui est pire.
Voilà, et plus ça se voit et plus ça sort du lot, voilà, plus c'est plus pire c'est. Et donc, ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a finalement, il y a guère qu'une seule personne qui semble s'intéresser à elle sans trop de méchanceté et manifestement sans arrière-pensée, quoi. Donc, bon, c'est assez triste. Au final, l'aspect cruel des enfants est assez bien représenté, même si je trouve, alors je suis peut-être un peu optimiste, hein, j'aimerais bien avoir ton avis sur ce point, même si je trouve qu'ils vont quand même un peu loin, un peu trop loin même, plus je l'espère que la moyenne des gamins. En tout cas, ce genre de problème-là, il n'y a pas besoin de surdité pour le vivre, c'est certain. Et une dernière petite touche pour le professeur, certaines personnes qui nous écoutent peut-être du forum Canard PC se reconnaîtront. Il y a un avis que je partage, c'est le prof qui lui demande de lire à voix haute en classe, sérieusement ? Ok, qu'est-ce qu'on fait ? Tu démissionnes ou est-ce qu'on met des mois à te licencier ? Bref.
Bah non, et de toute façon, regarde, il a trouvé un coupable après, donc tout va bien. Juste pour revenir sur le côté, est-ce que les gamins qui sont décrits ici sont vraiment cruels et peut-être que dans la vraie vie ils sont moins cruels ? Je serais pas aussi optimiste que toi, justement, parce que les gamins sont vraiment très imaginatifs et ont beaucoup moins de recul sur le mal qu'ils peuvent faire.
Ouais.
Hein, ils sont beaucoup plus bruts, hein, de manière générale, même dans leur rapport entre eux.
Ouais. Bah, j'ai simplement trouvé qu'ils allaient très loin sur l'aspect matériel, notamment.
Ouais, ben, ouais, bon. Pour revenir sur ta remarque sur le professeur, je trouve que ça rejoint une gestion assez étrange d'une personne en situation de handicap qui est montrée dans le film, en tout cas dans les écoles. Donc il n'y a pas d'AVS, donc une personne spécifique accompagnant une personne en situation de handicap dans les écoles. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe en France. Et surtout, une non-prise en compte absolue des spécificités qui pénalisent des spécificités de Shoko.
Ouais, on dicte les deux. Le prof dicte les devoirs sans les écrire au tableau.
Ouais, mais voilà, il y a aucune adaptation, il y a aucune spécificité. Et surtout, le problème, c'est pas seulement, non seulement ça handicap vraiment l'élève, donc Shoko, mais surtout ça handicap aussi la classe, vu que la classe est mise dans une situation où on dit bah va falloir faire avec cette personne qui peut pas faire comme vous et qui sera jugée exactement comme les autres. Donc, en gros, vous allez tous être pénalisés. Forcément, c'est un terreau parfait pour du harcèlement derrière. Et bizarrement, qu'est-ce qui arrive ? Voilà. Sinon, je suis globalement à un poil déçu qu'on ait eu assez peu de perspectives sur le point de vue de Shoko. Certes, on a des exemples de maîtrise de langue des signes. On a quelques exemples du fait qu'elle ne puisse pas comprendre certaines situations par rapport à sa surdité, mais je trouve qu'on n'a pas du tout sa perception des choses, ou pas assez à mon avis, comme si le film en fait avait fabriqué un être à protéger et pas une personne à part entière. C'est-à-dire que les caractéristiques de Shoko, c'est elle est mignonne, elle est gentille, elle cherche à aller vers les autres, mais elle n'y arrive pas. Sinon, on ne sait pas pourquoi elle veut faire tout ça. On ne sait pas comment elle reçoit tout ça, et je trouve que c'est un peu dommage, parce que c'est quelque chose qui était plus mis en avant dans le manga une fois de plus. Là, je voulais aussi parler un peu de l'aspect romance. Est-ce que déjà, toi, c'est quelque chose qui t'avait un peu marqué dans le film, l'aspect romance ?
Oui, mais plus dans sa seconde moitié, voire dans son dernier tiers.
Je comprends. Ouais. Parce que je trouve que la romance, c'est pour moi une conséquence du propos principal. Le propos principal étant un ado qui a merdé en étant enfant et qui veut se reconstruire.
Ouais.
C'est pas le thème principal du film, selon moi. Je trouve que le fait qu'il y ait une attirance entre ces deux personnages qui se développent, il est assez ambivalent. D'un côté, en fait, dès la primaire, je trouve qu'ils étaient intrigués l'un par l'autre. Shoya, l'ado, fait de bonnes actions tout au long du film. Et Shoko, comme je disais, elle est réservée et mignonne. Donc, en gros, il y a un matériel pour faire de la romance, quoi, clairement. Mais ça reste quand même l'histoire d'une victime qui tombe amoureuse de son bourreau, même si son bourreau est devenu sympa. Donc moi, j'ai toujours ce petit malaise. Dernière chose, parce que vu qu'on parle de trucs ultra sympas, la dépression.
Ah, et quand on parle de tunnel.
Ah bah en même temps, la dépression. Oh, je t'en prie, parle-nous de dépression.
Oh bah non, bah on va passer à la suite du coup. Alors...
Non, en fait, il y a des représentations visuelles qui sont assez sympas sur le côté dépression. C'est la dépression côté Shoya, donc personnage masculin, ça se traduit par des croix symboliques mises sur les personnes dont il ne supporte plus le regard depuis qu'elle était ostracisée.
Oui, alors je précise pour les personnes qui nous écoutent qu'on parle de croix intradiégétiques, hein, donc dans la fiction, littéralement dessinée sur les visages des gens.
Exact, voilà. Et... Du coup, ça permet un effet de mise en scène et aussi audio assez sympathique lorsqu'il y a une croix qui va s'enlever de la tête d'un personnage, qui va montrer en fait que ce personnage va être accepté par Shoya. Côté Shoko, en fait, on a une fuite permanente. On a un sourire de façade et une constante frustration face à ses difficultés de communication et qui ne sont pas uniquement liées à son handicap, mais aussi à mon avis, à son trauma post-harcèlement. Quoi.
Ouais.
Bon, j'avais un autre truc, mais je pense que tu peux passer à ta partie.
Ok. Alors, du coup, une notion qui est rapidement abordée, mentionnée, mais qui néanmoins me paraît assez importante, c'est la nécessité d'apprendre à s'aimer et à s'accepter. Donc, je pense que tu vois de quel passage je veux parler. Un certain regard aussi sur la place du suicide dans la société japonaise, chez les jeunes en tout cas. Mais me concernant à ce sujet, j'ai surtout envie de dire, les Japonais, si vous m'écoutez, si vous avez envie de sauter, faites-le, mais pas au-dessus de l'eau, parce que sinon, vous allez au mieux rien faire, en fait, ça fera rien du tout. Au pire, vous amochez sévèrement, mais vous pourriez vous en sortir, ce qui n'était pas le but, et revenir, mais vraiment en sale état. Et en plus, apparemment, sauter dans l'eau, c'est un motif pour se faire renvoyer de son lycée, voilà. Bon à savoir si vous allez au Japon. Hein.
Conduite licencieuse.
Voilà,
exactement.
Pas de baignade interdite. Hein. Voilà, super. Bon, du coup, pour juste faire un petit lien avec l'aspect narration dont tu as parlé un petit peu au début, la construction du film n'est pas 100% linéaire, c'est quelque chose que je voulais préciser, mais elle reste quand même simple à suivre parce que c'est quand même globalement linéaire. On n'est pas au niveau de ce que proposerait Your Name ou encore plus intense Perfect Blue, par exemple.
Effectivement, il y a des rebondissements, mais il n'y a pas de moments oh là là, what the fuck.
Oui, et puis je pensais aussi à des retours en arrière ou un petit peu de désordre dans le montage. Du coup, après ce long passage sur les thématiques, on va peut-être passer aux personnages. J'ai rapidement quelques petits avis à donner. Donc Nishimiya Shoko et Ishida Shoya, donc les deux personnages principaux. Alors si Shoya est un sale petit merdeux de mes deux en début de métrage, hein, ce qui est voulu, ils sont quand même après attachants. Par contre, du coup, comme tu l'avais mentionné, il y a des personnes qui ont tendance à se dédouaner, rejeter un peu la faute sur les autres, etc. À ce niveau-là, la pire étant Ueno Naoka et surtout Kawai Miki, qui sont de loin les pires, sont aussi deux petites merdeuses. Et bon, pour l'aspect du coup, se dédouaner, c'est Kawai qui remporte la médaille d'or pour la troisième année consécutive, mesdames et messieurs. C'est une performance.
Ouais, le perso que je déteste le plus dans toute la.
Oui, bah heureusement qu'elle est là parce que sinon ce serait Ueno Naoka qui pour moi est pas loin derrière.
Oui, mais bon, comme je vais le révéler plus tard, j'ai un petit fait pour Ueno.
Ouais, bon, arrête de dire des conneries, parle-nous plutôt de VF, Captain
oui.
VF.
Alors, je trouve qu'on a plutôt une bonne adaptation en termes de registre de langue, en tout cas, un travail assez sérieux qui a été fait. Pour Shoya, on retrouve Bastien Bourlet, qui est un comédien habitué des animés japonais, hein, mais qui est surtout connu pour des rôles de protagoniste de shonen, donc orienté action. Les rôles de Bastien Bourlet, c'était donc Eren Yeager dans L'Attaque des Titans, Genos dans One Punch Man, ou pour donner une référence qui a déjà été donnée dans Le Samouraï à soubrette, Karma dans Assassination Classroom. Donc voilà, des personnages plutôt badass de manière générale.
Un personnage qui d'ailleurs était très apte à harceler Nagisa au
oui.
final.
Et bah du coup, c'est peut-être pour ça qu'il a été pris. Mais je trouve que quand même le rôle est, ici, il est beaucoup plus intimiste et dramatique hein, que par rapport aux trois que j'ai cités auparavant. Et je trouve qu'il s'en sort vraiment bien. Même sa voix est limite un poil trop charismatique par rapport au caractère effacé de Shoya.
Ouais.
Mais il demeure très juste, notamment dans les scènes poignantes ou les quelques rares instants de comédie. Je trouve que ça marche vraiment bien. Du côté du rôle principal féminin, il est porté par une non professionnelle, donc Mélanie Lemestre, alias Mélanie Def, qui est une créatrice de contenu sur YouTube et qui est sourde de naissance. Je trouve qu'elle s'en sort bien en termes de direction et de synchro labiale, et malgré son phrasé assez typique des sourds qui vocalisent, elle a un phrasé assez compréhensible, avec parfois un résultat assez étonnant qui malheureusement va casser des situations ou supposées d'incompréhension entre Shuko et la personne qui est censée ne pas comprendre ce qu'elle dit, parce que nous en tant que spectateur on va comprendre ce qu'elle raconte.
Ouais, je vois ce que tu veux dire, je pense que je vais y revenir un petit peu. Effectivement, bon, au global, moi je trouve que le niveau cast, tous les rôles sont bien. Il y a guère que le personnage de la petite sœur la petite nièce pardon, à part ça tous les rôles enfants, ados, adultes sont très bien. Mais je vais quand même revenir sur ce choix donc d'avoir placé, comme tu dis, une non professionnelle. Je peux saluer cette idée donc de placer une personne qui est sourde à la barre pour prêter sa voix à Nishimiya Shoko. La performance, du coup, comme tu l'as dit, en plus, est globalement bonne, y compris pour certaines émotions telles que la colère ou la culpabilité. Malheureusement, les émotions liées à la tristesse sont nettement moins réussies. Là, ça se ressent et pour le coup, c'est pas crédible, quoi. C'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Donc je trouve que c'est saluable. Néanmoins, les comédiens, ça reste en fait leur travail, hein. Ils sont capables d'incarner une personne ayant un handicap. Vous le voyez d'ailleurs dans des films, hein, des personnes qui vont incarner un personnage ayant un handicap moteur, par exemple, elles n'ont jamais été sur un fauteuil roulant de leur vie et elles sont tout à fait capables, avec un petit peu d'entraînement et en étant qualifiées, d'incarner toutes sortes de rôles qui ne correspondent pas à leur quotidien. Donc pour moi, il n'y a rien d'insultant à placer un comédien sans handicap pour incarner un tel rôle, parce que c'est leur boulot, ça s'arrête là. Donc attention, la prestation n'est en aucun cas mauvaise, elle est juste inégale selon les émotions qui sont en jeu.
Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Après voilà, ça reste ce qu'on appelle un star talent, même si c'est pas une grande star, hein, mais pour le coup, mais ça reste une personne non professionnelle, mais avec une certaine notoriété qu'on a mis sur un rôle de doublage. Et pour le coup, vu la prestation, c'est acceptable. Mais l'avantage, c'est qu'on a un cast d'ensemble qui est vraiment très juste de manière générale, comme tu l'as dit, ce qui fait que globalement, on n'a pas, on a une prestation globale qui est vraiment bonne. En voix additionnelle, on a quand même des pointures comme Marine Honnenmacher ou Yann Pichon, hein, dont on a déjà parlé dans cette émission, notamment pour du Kill la Kill. Mais dans le rôle de Yuzuru, il y a l'immense Nathalie Bien-Aimée, qui est un mastodonte du doublage français, hein, et d'animation en particulier. C'est la voix de Bart Simpson, quand même. c'est pas rien. C'est la voix de Gon dans Hunter x Hunter aussi, ou de Lincoln dans Bienvenue chez les Loud, dont mon fils est vraiment extrêmement friand. La voix de Nathalie Bien-Aimée, elle est très habituée au rôle de petit garçon, donc je trouve que c'est vraiment très adapté pour le rôle de Yuzuru. Et non, je le vois dans tes yeux, hein, j'ai pas oublié. Parce qu'au sein de l'équipe Le Samouraï à soubrette, on connaît déjà cette actrice, hein, pour les rôles de Evil Eye dans Overlord, le rôle de Yui dans Sword Art Online, le rôle de Fabiola dans Black Lagoon, de Irina dans Assassination Classroom, et bien sûr Mako dans Kill la Kill.
Aïe aïe aïe. Presque et un grand flemme de nos épisodes. Hein. Allez, dis-le, dis-le.
Évidemment, je parle de Caroline Combe qui double Naoka, un rôle à mi-chemin entre la gentille peste et l'insupportable garce, un rôle qu'elle maîtrise parfaitement hein, dans un registre proche de ce qu'on a pu la voir faire dans Nisekoi ou récemment dans Tonikaku Kawaii. Bref, c'est pour ça que Ueno, ah, j'aime bien.
Ouais, c'est bon, maintenant vous avez compris pourquoi il a un peu d'affection pour ce personnage. Donc ouais, si on devait résumer l'adaptation, donc tu en as déjà un petit peu parlé, elle est de bonne facture. Je vais quand même parler du dérapage de la scène de la lune. Alors donc si les personnes qui nous écoutent ont vu le film, en fonction de si vous l'avez vu en version originale et ou en version française, vous verrez peut-être plus ou moins de quoi je veux parler. Il est déjà difficile d'adapter des jeux sur la prononciation entre deux langues. D'autant plus des langues si différentes dans leur prononciation comme le japonais et le français. Comme on a un jeu sur le fait qu'une personne sourde a du mal à s'exprimer, ça rend le truc encore un petit peu plus touchy. La comédienne parle presque trop bien pour le texte qui lui a été donné. Et au final, si on découvre le film avec la VF, on risque de ne rien comprendre à cette scène. Alors que en ayant vu d'abord la VO ou en venant ensuite à de la VO, tout devient beaucoup plus clair.
Plus précisément, en ayant lu les sous-titres.
Parce que... Mais ces quelques mots-là, je les aurais compris.
Oui, toi, oui. Toi, Captain Weeb.
Captain Weeb, ça y est. J'ai été rétrogradé, hein. Je ne sais pas si vous avez noté. Allez, parle-nous plutôt de Galette Bleue.
Oui, pour le Blu-ray. Alors, le Blu-ray, je vais te laisser parler de tout ce qui est aspect technique vraiment sur le Blu-ray, mais je tiens à dire qu'il y a une piste VOST pour sourds et malentendants sur le Blu-ray ainsi que sur le DVD. C'est certes logique au vu du thème du film, mais ça reste extrêmement rare dans l'édition vidéo et encore plus pour de l'animé. Donc vraiment chapeau juste pour les gens de Rozum en fait qui sont à l'origine de ça, je crois.
C'est pas distribué par Kazé le coffret?
Oui, Kazé, mais c'est Kazé le coffret et c'est Rozum pour le cinéma, pardon.
Donc ouais, pour les aspects techniques, je voulais mentionner quand même la présence d'un très léger color branding sur certaines nuances de texture qu'on peut voir en début de film, notamment sur les bureaux ou les tableaux. Il reste assez léger, hein, il est assez discret, je dirais même qu'il est invisible pour un œil non entraîné, surtout sur des écrans de dimension et de définition réduite. Le premier qui dit résolution, je le coupe en deux. Cela n'entache pas du tout la qualité visuelle de l'ensemble, et on l'a dit, l'animé est visuellement très abouti, et le support Blu-ray lui fait sans nul doute honneur.
C'est ainsi que se termine ce 11e épisode du podcast Le Samouraï et la Soubrette. On vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos épisodes, des hors-séries et tous nos articles sur le site www.lesamouraïetlasoubrette.fr. Nos podcasts sont aussi. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur Spotify, sur Podcast Addict, sur Google Podcast et sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Je crois même qu'on va bientôt aller sur Apple Play, donc ce sera plutôt cool.
Merci de nous avoir écoutés pour ce 11e épisode. Maintenant que Xavier a donné la conclusion, je vais lâcher le dernier petit mot pour vous dire qu'il vous reste encore quelques petits extraits VF à découvrir avant la fin de la piste. Merci pour votre écoute. À bientôt.
Nishimiya, dis-je, me demandais, ces appareils que t'as dans les oreilles, ils te permettent vraiment d'entendre ?
Je me posais la même question. J'aimerais bien savoir comment ça marche.
Fais-moi voir une seconde.
La vache, je savais pas qu'elle aimait les garçons plus jeunes. Alors, je suis un peu surpris. Est-ce que tu pourrais au moins lui donner cette baguette de ma part ?
C'est laisse du bon tomber, pain et elle... il faut te faire un dessin, je vais te le dire clairement vu que t'as pas l'air de piger. Dégage, t'es pas le bienvenu. T'as compris cette fois ? Allez, salut.
Nishimiya ! Chauffe !